Du 13 au 15 mai 2026, le président américain a foulé le sol de Pékin pour son deuxième voyage d'État en Chine, le premier de son second mandat. Face à Xi Jinping, Trump a cherché à stabiliser la relation la plus importante du XXIe siècle entre les deux premières puissances mondiales. Des annonces de deals commerciaux fantastiques ont été brandies, mais les avancées concrètes restent apparemment limitées. La relation USA-Chine, marquée par une rivalité systémique encore prudente de part et d'autre, ne paraît pas être sortie transformée de ce voyage. Dans le même temps, le monde regarde encore avec inquiétude la crise iranienne, alors que les États-Unis sont engagés dans ce coûteux conflit au Moyen-Orient depuis le mois de février, avec le blocus du détroit d'Ormuz qui fait toujours flamber les prix du pétrole. Trump a demandé, sans succès spectaculaire, l'aide chinoise pour une désescalade. Est difficile de savoir exactement ce que veut la Chine, entre tentative d'apaisement par nécessité économique pour sa fourniture de pétrole et utilisation de la situation pour essayer d'affaiblir l'influence américaine. En Europe, la guerre en Ukraine est entrée dans sa cinquième année il y a deux mois. Moscou maintient sa pression sur le front malgré des difficultés toujours plus nombreuses, tandis que le danger russe plane de plus en plus sur le flanc oriental de l'OTAN. Face à une Europe divisée et militairement dépendante, l'Amérique de Trump redéfinit sa posture entre désengagement relatif et réaffirmation de leadership. Quelle est aujourd'hui la position américaine dans le monde ? Entre une Chine qui consolide son influence, une Russie revancharde, un Moyen-Orient en flammes et une Europe en alerte, les États-Unis restent l'arbitre indispensable.
Comment ? Vous connaissez pas Philippe Fabry ? Alors là, on pourra dire que vous êtes à l'abri de comprendre les choses, parce que quand une question se pose, avant de foncer la tête baissée sur les réseaux comme des oiseaux, on prend une dose d'historionomie. Surtout, hésitez pas à en parler à vos amis, ils ont peut-être dans leur malheur le nez collé sur leur bécane à écouter du Salamé ou encore pire du Abirkan. Pour comprendre le monde, c'est sûr, les analyses abondent, il y a 14 experts à 2,50 m à la ronde, mais quand il s'agit d'expliquer les États-Unis, soudain tout le monde devient hystérique comme par magie, ou au pire ça plagie, on n'aimera pas qui régurgite, mais bref, pendant que tout le monde s'agite, avec Philippe on s'assagit, on prend du recul, eh oui, pendant que tout le monde s'engueule, un tel a dit machin, mais qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils veulent? Au lieu de se faire des nœuds au cerveau et de tout compliquer, avec ses modèles incisifs, Philippe peut tout expliquer. Alors prenez un coca, petite étude de cas, Poutine en Europe c'est ambigu, c'est délicat. Ou bien peut-être a-t-on affaire à un impérialiste, un peu revanchard, y'en a quelques-uns dans la liste. Bouquinez son livre, il va vous mettre sur la piste, vous aussi bientôt vous pourrez scander Admouligne. Plutôt que du bruit diffus, vous verrez des signes, au lieu de dire des âneries et des platitudes banales, ça s'explique par leur stade dans la construction nationale.
Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 16 mai 2026, il est 21h38, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission, j'ai l'impression que ça fait une éternité, en fait ça ne fait que 15 jours me semble-t-il, mais je suis très heureux de vous retrouver ce soir, vous avez peut-être pu me voir passer dans votre flux YouTube, puisque j'ai quand même publié quelques formats flash pour pas que vous soyez totalement dépaysés. Si vous n'avez pas les formats flash dans votre flux YouTube précisément, c'est que vous n'avez pas activé la cloche et que de manière générale, vous ne poussez pas assez. Donc YouTube ne vous communique pas tout ça. Alors n'hésitez pas à le faire, encore une fois. Poussez, activez la cloche. Ça permet d'entraîner YouTube à vous montrer ce que vous avez envie de voir et donc notamment cette chaîne. Annonce à faire ce soir que j'ai déjà un petit peu faite ces jours-ci, mais je vais vous le refaire ici parce que c'est très important. Vous avez jusqu'au 20 mai pour bénéficier du tarif préférentiel qui sert en fait uniquement à faciliter notre organisation du congrès, puisque plus tôt on l'a, plus c'est facile de savoir où on en est, notamment prévoir les quantités qu'il faut pour les repas, etc. Donc, le congrès historique de Toulouse, on a l'adresse cette fois-ci, elle s'affiche là. Vous avez toutes les informations et l'adresse email à laquelle vous devez écrire si vous voulez prendre contact avec les organisateurs, hein, que je ne suis pas vraiment, en fait, puisque c'est pas moi qui m'occupe de toutes les logistiques. Je loue ceux qui s'en occupent, dont fait partie naturellement notre Hirumissime Hiruma qui n'est pas là ce soir parce qu'il est occupé, ça arrive, et donc vous êtes seul avec moi. Je vous laisse en profiter, je vous laisse décider si c'est une bonne nouvelle ou pas. Ça sera l'occasion de faire c'est un live hebdomadaire, hein, classique, donc il y aura le live privé des souscripteurs qui suivra et dans lequel je répondrai à toutes les questions de nos chers soutiens. Je vous encourage à devenir l'un d'entre eux. Et s'il y a des questions pendant l'émission, j'y répondrai, et qui sont assorties d'un don, j'y répondrai à la fin. Peut-être que j'attraperai une question chouard au passage, question gratuite de quelqu'un qui passe et qui n'est pas souscripteur, mais c'est beaucoup plus compliqué pour moi que ça n'est quand c'est Hiroma qui fait la sélection, puisque moi je suis obligé de parler en continu. Et donc j'ai beaucoup de mal à lire le chat en même temps. Donc c'est pas la peine de rager contre ce que je dis dans le chat, je ne vous verrai pas, hein, si vous ragez. Voilà, donc pensez-y pour le congrès, ratez pas, encore une fois, c'est jusqu'au 20, après on est obligé d'augmenter le tarif, c'est juste pour encourager les gens à se dépêcher. Donc si vous voulez bénéficier du tarif normal à 50 balles, qui comprend notamment le repas de midi, le petit déjeuner, etc., allez-y, hein. Voyez avec le... écrivez à l'adresse, tout le reste vous sera expliqué. Bien, parce que ça arrive très vite, hein, il n'y aura pas d'autre live qui fera une annonce en fait d'ici là. Voilà, alors, aujourd'hui, oui, on est toujours dans le doute sur l'Iran, hein, les chaînes info continuent à tourner sur la question « est-ce que Trump va reprendre les frappes ?» J'ai observé un truc amusant cette semaine. Enfin, la semaine passée, parce qu'en fait, ça fait, vous savez que je me plains souvent de devoir suivre les chaînes info pour voir à peu près ce qui s'y raconte. Je vous avoue que j'ai lâché l'affaire depuis une dizaine de jours. À peu près au moment où ils ont commencé à aller sortir les trucs qui se sont passés pendant les deux premiers jours de la guerre, en fait. Vous savez, ils ont ressorti les images, je crois que c'est le New York Times ou le Wall Street Journal, je ne sais plus, qui a sorti les images, les images satellites des bases américaines qui ont été frappées au Moyen-Orient. Et qui ont subi effectivement des dégâts importants dans les premières vagues de missiles. Et ils sont allés ressortir aussi l'histoire de l'appareil, je crois que c'était un vieux F-4 iranien, qui avait réussi à aller bombarder une cible Koweït pendant les premiers jours de la guerre. Et qui, en fait, ce qui était, bon, alors, que ce qu'on soit informé sur la réalité militaire, hein, et les dommages qui ont pu être subis par l'armée américaine dans les tout premiers jours de la guerre. Pourquoi pas, c'est effectivement mieux. Ça montre aussi que la capacité balistique iranienne était réelle, hein, puisqu'il y a eu de vrais dommages qui ont été causés à ces bases, on le savait déjà, puisqu'on en a su tout de suite en fait, qu'il y avait pour les dégâts les plus importants, c'est-à-dire notamment sur des installations radar, qui étaient les choses les plus coûteuses. Maintenant, le problème, c'est que c'était traité dans les médias du genre « Ah, comme quoi, en gros, les Iraniens s'en sortent bien, etc. » Alors que, en fait, non, puisque c'était des choses qui s'étaient passées précisément dans les premières heures de la guerre, premières heures, premiers jours de la guerre, ça devait être les deux premiers jours, et que, justement, c'est après ça que toutes les capacités militaires iraniennes, qui étaient réelles, encore une fois, au début de la guerre, la preuve, ont été, en fait, anéanties ou obligées de se taire, puisque, par la suite, il n'y a plus de vagues de missiles massives, et que pour arriver à taper comme ils l'ont fait les bases militaires américaines, il fallait être capable de faire des attaques massives. Donc, de toute façon, ça ne change rien au fait que la capacité militaire iranienne à l'encontre des États-Unis est à peu près inexistante depuis le deuxième ou troisième jour de la guerre. En fait, ça reste la chose, et c'est la grande différence entre l'enlisement russe en Ukraine en son temps et jusqu'à maintenant, et l'enlisement américain, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'enlisement, puisqu'il n'y a plus d'opérations militaires en dehors du blocus, désormais, qui est un blocus avec cessez-le-feu. Alors les Iraniens ont essayé de jouer le truc en expliquant que le blocus c'était un acte de guerre, mais ils n'ont pas repris les frappes, par peur de réactiver les frappes américaines, justement. Résultat, il y a un blocus qui se fait, américain, qui n'est sans doute pas efficace à 100%, mais enfin, même s'il est efficace à 70 ou 80%, ben, ça crée des gros problèmes économiques pour l'Iran. Et donc il y a cet effet d'étranglement qui est en cours. Et à part ça, comme il n'y a pas d'opération militaire, il n'y a pas d'enlisement, je veux dire. Contrairement à ce qui s'est passé pour l'Ukraine, il n'y a pas de combat dans la continuité, qui sont obligés d'être alimentés en permanence. C'est pas ça qui se passe. Donc voilà pourquoi j'ai un peu lâché l'affaire avec les chaînes info. J'y suis juste retourné aujourd'hui pour voir s'ils parlaient toujours de l'Iran. Effectivement, ils ont fait quelques jours sur l'antivirus, et depuis, ils sont à nouveau sur l'Iran. Ils ont fait quelques jours aussi sur Trump en Chine, parce que, et c'est pour ça que j'en ai fait le sujet de cette semaine. Forcément, une première fois, le sommet avait été reporté à cause de la guerre en Iran. Et donc, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte de ce truc. Et comme souvent, je pense, quand il y a une grosse attente à propos d'un sommet, ça amène à une espèce d'engagement psychologique dans le sommet et à avoir derrière des lectures assez faussées de ce que c'était. Moi, très honnêtement, d'ailleurs, je vous en avais pas trop parlé parce que je n'attendais pas grand-chose de ce sommet, pas plus que les fois précédentes. Alors on voit encore fleurir beaucoup de trucs du genre « ça a été une démonstration de force de la Chine sort renforcée, etc. » j'ai essayé de partir un petit peu, pour vous donner quand même un petit sommaire, on va parler de situation stratégique globale, parce que j'ai envie de parler aussi de choses qui se passent autour de l'Ukraine, etc. Et puis on va refaire un petit peu d'historionomie aussi pour bien recomprendre, faire le point sur la situation dans laquelle sont les différents pays, surtout la Chine et l'Iran, ça me paraît important. Je vais y revenir dans un instant donc, mais pour parler de la Chine donc, et du voyage en Chine, il me semble que il y a deux, trois points, on va dire, qui ont été repris et sur lesquels ont insisté les médias. Le premier point peut-être, c'est la question de Donald Trump qui va demander l'aide de la Chine à propos de l'Iran. Alors, je pense que demander l'aide de la Chine, c'est un petit peu exagéré. Que Donald Trump éventuellement fasse pression sur la Chine pour qu'elle fasse pression sur l'Iran à propos de la réouverture du détroit d'Ormuz, ça c'est tout à fait possible et vraisemblable, mais il faut voir aussi que la Chine dit depuis un moment à l'Iran de ne pas fermer le détroit d'Ormuz parce qu'elle-même a besoin qu'il soit ouvert et risque de souffrir du blocus. Puisque vous savez que le problème de la Chine, c'est qu'elle achète du pétrole iranien assez massivement, y compris du pétrole donc qui est sous sanction. Mais assez largement en disant pas qu'elle achète du pétrole iranien et en le faisant rebrander, en fait, si vous voulez, notamment en Malaisie. Puisque si vous regardez les chiffres de l'importation de pétrole chinoise, vous apercevez que la Malaisie arrive de mémoire en tête, alors que la Malaisie produit assez peu de pétrole autochtone finalement, et elle sert surtout à transborder en fait du pétrole, qui donc est tamponné pétrole malaisien quand il arrive en Chine, mais qui en réalité pour une bonne partie était à la fois du pétrole vénézuélien, du pétrole iranien, etc. Et donc à partir du moment où le pétrole y passe plus, ou en grande partie moins, parce que les États-Unis font un blocus, à la fois les Chinois peuvent pas exactement gueuler contre le pétrole qui passe plus parce que c'est pas toujours officiellement qu'ils l'achètent. De ce point de vue-là, le blocus est assez futé puisque les Chinois peuvent pas protester contre ça directement. Et de l'autre côté, donc, ça les pousse à demander aux Iraniens de débloquer. Maintenant, quelle est l'influence réelle de la Chine là-dessus ? Il ne faut pas non plus être... L'alliance eurasiatique, le bloc entre la Russie, la Chine et l'Iran, est une alliance objective, essentiellement. Un petit peu comme était, si vous voulez, l'alliance, justement, l'axe Berlin-Tokyo, en fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire c'est pas une alliance dans laquelle les mecs sont amis, se défendent parce qu'ils ont véritablement une vision du monde en commun, etc. C'est plus une alliance effectivement de circonstances parce qu'en fait ils ont les mêmes ennemis. Ben, c'était ça à l'époque et donc ça implique pas une coordination énorme et surtout les intérêts nationaux restent toujours prioritaires. Et donc en ce qui concerne l'Iran, ils peuvent penser qu'il faut faire plaisir aux Chinois. Il reste que pour eux, la guerre, et pour le régime, cette guerre est existentielle. Et donc, ils ne vont pas lâcher leur principal levier juste parce que les Chinois sont favorables à ça. Donc, a priori, ça n'aura pas tellement d'effet. Et c'est pas surprenant. Et ça veut pas dire que Trump est allé se coucher devant les Chinois pour demander de l'aide là-dessus, parce que c'est peu vraisemblablement le cas. Ensuite, il y a la question de Taïwan. Alors, la question de Taïwan, là aussi, il y a eu beaucoup, à mon avis, de surinterprétations de choses qui ont été dites par Donald Trump. Puisque Donald Trump est allé expliquer, quand on a demandé s'il soutiendrait grosso modo Taïwan, il a eu ce message expliquant que, en gros, qu'il était contre le fait que Taïwan proclame son indépendance, et que, parce que les États-Unis n'avaient pas envie d'aller faire une guerre à 9500 km pour défendre l'indépendance de Taïwan. Bon. Alors beaucoup ont dit ça y est, il laisse tomber Taïwan, etc. Alors à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce que depuis des décennies, l'idée qu'il y a une seule Chine, c'est la doctrine officielle des États-Unis. Donc les États-Unis ne disent pas que Taïwan est un État souverain indépendant. Ils traitent avec lui comme si c'était le cas, en partie, en lui fournissant des armes, etc., en entretenant les bonnes relations avec le gouvernement taïwanais. Mais il n'y a pas de critique de la politique d'une seule Chine. Ça reste reconnu comme ça. Et donc même si des fois les États-Unis ont joué avec justement en rarement plus Taïwan, en faisant des visites, etc., qui énervent les Chinois, ben, ils sont pas allés au-delà de ça. Donc c'était toujours sur du jeu un peu à la limite, si vous voulez. Et donc que Donald Trump dise pas d'indépendance, en soi déjà c'est pas choquant. Alors ensuite on pourrait dire oui mais c'est quand même une inflexion justement parce qu'il y a des époques où les Américains, on va dire, ont joué plus avec la limite pour agacer les Chinois et donc là ça serait une baisse d'un ton en fait sur le sujet. Je suis même pas sûr qu'il faille le percevoir comme ça, dans le sens où la façon dont ça a été exprimé d'après moi, c'est plutôt histoire de mettre en garde Taïwan de ne pas commettre d'erreur ou de ne pas prendre de décision de rupture avec la Chine en pensant que les Américains en paieraient le prix pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de faire en sorte d'éviter que Taïwan n'offre un casus belli à la Chine. Parce que si Taïwan se déclarait indépendant de la Chine, ça provoquerait, de manière assez certaine et assez rapide, une attaque de la Chine. Alors qu'à partir du moment où Taïwan ne rompt pas les choses, les Américains peuvent toujours espérer que la Chine n'ose pas attaquer, pour des raisons de réputation internationale, tout ce que vous voulez, et donc poursuivre sa tentative d'y arriver de manière pacifique. Il me semble que c'est Marco Rubio, l'autre jour, qui a redit que la Chine préférerait annexer ou récupérer, disons, Taïwan de manière pacifique. Or, il y a quand même l'idée du côté américain qu'en gros, ils n'y arriveront jamais à récupérer Taïwan de manière pacifique, mais que si on arrive à faire en sorte qu'il reste sur ce rail-là, ben, ça règle, en tout cas, ça neutralise la question pour un moment. Donc, à mon avis, il ne faut pas surinterpréter ça non plus. Raison pour laquelle, donc, sur ces points qui sont les plus mis en évidence ces jours-ci, je pense, encore une fois, qu'il ne faut pas tirer... Voilà, pour moi, cette rencontre en Chine a rien changé en fait au rapport de force, elle a rien montré. Voilà, il y a eu des petits jeux diplomatiques, un petit peu de trollage des deux côtés avec Xi Jinping qui a montré, je crois, un arbre à Trump en lui expliquant que l'arbre avait 300 ans et donc c'était pour souligner le fait, en gros, la jeunesse des États-Unis, etc. Bon, tout ça c'est du jeu assez classique des Chinois, du genre on est une vieille civilisation, tout ça. Mais bon, ça va pas chercher ça très très loin. Donc en tout cas, ce qu'on n'a pas vu, donc, c'est le changement de la relation Amérique-Chine. Et à la limite, ça peut être une bonne nouvelle en soi, parce que ça veut dire qu'on n'est pas encore au bord du dérapage, notamment autour de Taïwan. Et donc ça laisse un peu de temps aux Américains pour continuer à préparer le champ de bataille mondial, comme je vous ai déjà expliqué qu'ils essaient de le faire, en particulier depuis ces derniers mois, avec le Venezuela, avec l'Iran, etc. Il y a d'autres choses qui sont un petit peu inquiétantes. Je vais commencer par ça, puis après on fera un petit peu d'historiognomie quand même. C'est la situation autour... Alors j'en ai parlé hein, dans les dernières émissions régulièrement. Je vous en ai parlé depuis l'automne dernier. J'ai dit que d'après moi, la confrontation dans les Pays-Baltes redevenait une option. Et si vous avez un peu suivi... Depuis justement le début de l'année, on a vu quand même une mention des Pays-Baltes apparaître de plus en plus fréquemment dans les médias à propos de la menace russe dans cette direction-là, notamment à cause de l'utilisation de l'espace aérien. Ce qui commence à faire du bruit d'ailleurs dans les Pays-Baltes, puisqu'il y a une démission de ministre de la Défense, une démission de Premier ministre en Estonie, me semble-t-il. Pour cette... Non, c'est en Lettonie, le Premier ministre. Je ne sais plus, il faudra vérifier. À cause justement de l'utilisation de l'espace aérien et du fait qu'il est plus sécurisé. En plus, il y a semblé-t-il des drones qui se sont écrasés parce qu'ils ont été brouillés par les Russes, mais c'était des drones ukrainiens qui étaient sur place. Et les Russes ont indiqué que c'était une forme de ligne rouge que des pays de l'OTAN laissent utiliser leur espace aérien pour bombarder la Russie. Parce qu'en fait, effectivement, ça a causé pas mal de dommages, notamment aux infrastructures pétrolières russes. Et puis, il y a eu l'affaiblissement de la Russie depuis ces derniers mois, avec une ligne de... contact qui est quasiment figé, enfin virtuellement figé. La réalité, c'est qu'il y a des endroits où les Russes avancent, mais il y a aussi des endroits où les Ukrainiens avancent. Donc, grosso modo, sur le total, les Russes ne gagnent plus vraiment de terrain, mais ils en gagnent à certains endroits, en particulier dans le Donbass. Et donc, ça... Voilà. De plus en plus, vous verrez des gens qui parlent de l'hypothèse, hein, que je mentionne depuis un moment, de l'escalade horizontale, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de nouveaux pays qui soient engagés. Alors je ne reviens pas sur le calcul, ce qui serait le calcul stratégique russe pour faire ça. J'ai fait un flash il n'y a pas longtemps pour vous l'expliquer, hein, pour dire comment est-ce qu'ils pourraient réfléchir à cette idée-là. Comment est-ce qu'ils pourraient estimer que c'est un choix rationnel de décider d'escalader contre l'OTAN ? Mais dans le contexte actuel, avec une guerre qui se poursuit, des Américains qui sont occupés en Iran, etc., ça devient de plus en plus vraisemblable. Et en plus, on a des signaux maintenant. C'est-à-dire que vous avez la question de la Biélorussie qui semble être de plus en plus sur le pied de guerre avec... avec Loukachenko qui a annoncé une mobilisation partielle de certains effectifs pour augmenter la préparation à la guerre de la Biélorussie. On sait que Poutine cherche à attirer la Biélorussie dans la guerre, qu'en plus maintenant, ils ont déployé des Oreshniks en Biélorussie, ils ont déployé des têtes nucléaires, ils ont déployé aussi des bases avancées de lancement de drones, qui sera moyen de menacer aussi le territoire européen. Les Ukrainiens ont accusé les Biélorusses d'avoir construit des routes pour leur permettre de frapper éventuellement dans le nord de l'Ukraine, donc ça fait réapparaître la menace dans cette direction-là, alors qu'elle paraissait un peu éteinte, même si les Russes essayaient de l'activer régulièrement pour obliger les Ukrainiens à garder des forces sur la frontière biélorusse. On va peut-être d'ailleurs passer en mode carte pour voir tout ça. Alors, ouais, du coup, ça me change la caméra, ça, j'ai pas réussi à le changer, mais enfin, bon, du coup, ça donne une illusion de montage intéressant. Google Maps, tac, alors je crois que ça ne s'affiche point, donc je vais, il faut que je réactive le... Il faut que je réactive la fenêtre. Et elle est là. Voilà. Ok. Donc on va aller faire un petit tour en Biélorussie pour essayer de se souvenir. Voilà, donc il y a eu des bases de drones qui sont déployées dedans. Hein, ce qui naturellement vous fait. Ça fait gagner plusieurs centaines de kilomètres par rapport au territoire russe, hein, pour éventuellement aller taper en Pologne ou en Europe centrale, voire même jusqu'en Allemagne, direction de Berlin. Raison pour laquelle d'ailleurs la patronne de l'AFD en Allemagne a dit que les frappes dans la profondeur de l'Ukraine en Russie faisaient courir un risque de sécurité à l'Allemagne et que la politique allemande serait plus balancée entre la Russie et l'Ukraine, donc, si on comprend bien, si l'AFD arrive au pouvoir. Donc, il y a des craintes de frappe dans la direction de Tcherniv ou de Kiev, éventuellement, depuis le territoire polonais, depuis le territoire biélorusse, pardon, c'est ce qui s'était déjà passé lors de la première invasion, on se souvient que ça avait foiré. Dernièrement, Vladimir Poutine a expliqué que c'est parce que il a ressorti son idée qu'en gros, si l'invasion avait foiré la première fois et qu'il n'y avait pas eu la paix, c'est parce que les Russes, en gros, ont un geste de bonne volonté sur la demande de Macron. Alors maintenant, il a mis Macron. Avant, il parlait surtout de Boris Johnson. Je ne sais pas pourquoi il a changé pour Macron. C'est le nouvel ennemi. C'était retiré en signe de bonne volonté. On sait très bien que c'est tout à fait faux. Hein. Si les gens qui vous expliquent... que c'est les Occidentaux qui ont empêché Kiev de signer la paix. Non, on a dit à Kiev, il vaut mieux pas que vous signiez la paix alors que vous avez un flingue pointé sur la tempe, alors que le mec qui tient le flingue va le lâcher dans deux jours, parce qu'il a la même pleine d'huile. Hein. Grosso modo, c'était ça l'idée. Et ce qui s'était passé, c'est que fin mars, en fait, vous aviez les fameuses colonnes là, qui faisaient plusieurs 60 km de véhicules russes qui allaient vers Kiev, qui avaient été bloqués à cause du ratage d'Ostomel. Donc vous aviez un embouteillage monstre avec des véhicules, je le rappelle, hein, parce que c'est toujours important à rappeler, des véhicules, il faisait très froid, les températures étaient négatives, puisqu'on était encore en hiver, donc les véhicules étaient à l'arrêt, et les équipages des véhicules faisaient tourner les moteurs de leurs véhicules toute la journée, à l'arrêt, pour avoir le chauffage, parce qu'il faisait trop froid. Résultat, la panne générale de carburant menaçait la totalité du convoi, et en gros, vous aviez la moitié de l'armée russe d'invasion qui risquait d'être juste bloquée sur les routes, sans carburant, incapable de se ravitailler, et à la proie des Bayraktars ukrainiens. Donc c'était une catastrophe, et les Russes se sont repliés parce qu'ils étaient au bord de la déroute, tout simplement. Donc ils ont subi une défaite stratégique autour de Kiev, stratégique, parce qu'elle a sauvé le sort de l'Ukraine à ce moment-là, et elle a poussé à la guerre longue que nous voyons depuis. Donc il n'y avait pas du tout eu de truc comme ça. Mais donc, il pourrait y avoir une tentation russe, éventuellement, de réessayer le coup, en le refaisant mieux, en se disant, cette fois-ci, on va y arriver à aller sur Kiev, parce que si on continue de grignoter, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Bon. Mais il y a aussi une chose qui est tout à fait possible, qui est dans le cas de l'attaque contre les Pays-Baltes, c'est de mettre des troupes aussi en Biélorussie et de jouer l'ambiguïté stratégique en faisant croire que peut-être vous allez attaquer les Ukrainiens, histoire que l'OTAN ne s'affole pas trop. Et après, boum, vous utilisez ce que vous avez pour finalement aller dans les Pays-Baltes. Par exemple, après avoir fait une attaque sous faux drapeau lituanienne contre la Biélorussie, histoire d'entraîner la Biélorussie dans la guerre contre les États-Baltes. Ce qui serait le truc le plus évident, parce que d'un coup, vous gagnez quelques dizaines de milliers d'hommes en plus, et ça évite d'avoir à préparer des concentrations de troupes trop importantes, parce que le problème des concentrations de troupes, c'est que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et que à l'époque des drones, etc., c'est très très dangereux de faire ça. Et donc, Volodymyr Zelensky lui-même a dit que le renseignement ukrainien voyait le fait qu'il y avait des déploiements en Biélorussie, qu'il y avait des choses qu'il laissait penser que ça pouvait être des attaques en direction de Tchernihiv ou de Kiev, mais que ça pourrait aussi être pour attaquer les Pays-Baltes. Et surtout, vous avez des sons de cloche qui commencent à être un petit peu partout, notamment dans les canaux pro-russes, qui imagine ça. Alors vous avez beaucoup de gens qui commencent à parler de frappe nucléaire. Alors encore une fois, moi les frappes nucléaires, je n'y crois pas. Maintenant, agiter beaucoup le spectre de la frappe nucléaire, c'est un moyen de couvrir une attaque en paniquant les Européens notamment, parce que si vous menacez les Européens de frappe nucléaire, forcément, ça va peser dans la réflexion que se feront beaucoup s'il y a une attaque en direction des Pays-Baltes. Vous avez notamment un personnage très influent qui est, je remercie Jean-Michel qui m'a envoyé un certain nombre de déclarations à côté desquelles j'étais passé. Vous avez Karaganov. Alors lui, je savais ce qu'il disait déjà un peu parce que son discours avait été repris dans Le Grand Continent il y a un ou deux mois. Et c'était très intéressant parce que ça montrait la montée en puissance à Moscou d'une vision des choses, effectivement très brutale, en gros, qui dit « il faut aller se taper avec les Européens ». Voilà, ça paraît de plus en plus dans l'air du temps. Et ces dernières semaines, on vous a parlé beaucoup de choses, de fragilité du pouvoir en Russie, etc. Moi, je trouve que ça pue un peu la Maskirovka, tout ça, pour faire genre le pouvoir russe est trop faible pour se tenter des trucs. Alors militairement, ils sont pas très frais, c'est sûr, mais ils gardent quand même fortement le contrôle du pays. Ils contrôlent les médias, ils ont pratiquement coupé Internet et une bonne partie des réseaux sociaux, donc ils pourraient lancer une attaque et juste derrière faire une grosse mobilisation rapide de 300 000 hommes qui seraient pas formés, etc., qui seraient envoyés au front très vite, mais ça prendrait les Européens extrêmement de court, puisque je me rappelle le calcul que j'ai indiqué dans mon autre vidéo que vous pourrez aller voir, l'idée étant de jouer... d'estimer que comme les Européens n'ont pas de détermination à se battre, l'important c'est de briser très rapidement leur détermination, histoire ensuite de priver l'Ukraine des moyens de faire la guerre, puisque les moyens de faire la guerre sont européens, la détermination est ukrainienne. Voilà, il y a gros danger dans ce sens-là, et il y a aussi un truc intéressant, c'est que vous avez un type comme Scott Ritter. Alors Scott Ritter, c'est un analyste américain très, très pro-russe, grosso modo, il y a eu lui et McGregor, qui sont absolument pas fiables dans leur analyse du conflit en général, parce qu'ils sont maximalistes sur la puissance russe, de toute façon les Russes ont déjà gagné, etc., enfin bon, on a les mêmes à la maison, hein, mais voilà comment ils sont. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les pro-russes sont plutôt sur le registre... certes, bon, les Russes vont gagner en Ukraine, il n'y a pas de souci, ils vont leur rouler dessus, etc. Mais par contre, d'habitude, ils disent les Européens sont des parano de croire que la Russie voudrait les attaquer, la Russie a aucun intérêt, etc. Blablabla, vous connaissez le discours. Or, là maintenant, ils commencent à dire la Russie a déjà décidé d'attaquer l'Europe, avec notamment ses drones Shahed construits et stockés. J'ai essayé d'interroger l'IA, d'aller chercher les chiffres, etc., sur le stock qu'il y aurait. Alors, c'est très difficile à savoir. Ils ont peut-être entre 10 et 30 000 drones Shahed en stock, les Russes. Alors il faut savoir que l'autre jour, ils ont fait leur plus grosse, c'était dans la semaine, là, dans la nuit du 12 au 13 je crois, ou du 13 au 14, ils ont fait leur plus grosse frappe de drone sur l'Ukraine depuis le début de la guerre. Ils en ont lancé 1400 en 24 heures sur l'Ukraine, 1400 drones Shahed. Ça n'était jamais arrivé. Le dernier record c'était 900 ou 950, un truc comme ça. Donc encore 50% de plus que le dernier record. Donc une très grosse vague qui a pas mal saturé les défenses. Je crois que le taux d'interception a été assez bas en raison de la masse côté ukrainien. Et c'était autant, en fait, pour se rendre compte à quel point l'échelle de la guerre a augmenté, c'est autant de drones que ce qui a été lancé pendant toute la première année, en fait. Donc c'est véritablement quelque chose de très important. Et donc à ce rythme-là, si, mettons, les Russes ont 30 000 drones, ça veut dire qu'ils pourraient en balancer 1500 sur l'Europe de l'Est par jour pendant 20 jours virtuellement, ou 1000 par jour pendant un mois, quelque chose comme ça, sachant que leur production continue d'augmenter, donc ça serait de cet ordre-là. Et donc en direction à la fois des États baltes, enfin si les États baltes sont envahis, ce serait surtout en direction de la Pologne, de l'Allemagne, etc. Déjà ça peut faire pas mal de dommages, puisqu'il semble, je parlais tout à l'heure de ce qui s'était passé. Les dommages qui avaient été provoqués sur les bases américaines au Moyen-Orient par l'Iran dans les premiers jours de la guerre, semble-t-il qu'une bonne partie des dégâts effectifs, ça vienne de drones et pas de missiles, hein, puisque les drones auraient été ceux qui auraient été moins bien interceptés dans les premiers jours, d'après ce que j'ai compris. Donc il y aurait quand même pas mal. Donc vous pouvez faire très mal avec des drones, vous pouvez détruire pas mal de trucs, et surtout vous bouleversez l'économie, vous mettez en tension l'économie européenne si vous commencez à bombarder la Pologne, l'Allemagne, etc. Même si vous ne faites pas des dégâts matériels énormes, 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 si vous regardez la panique dans laquelle tout le monde est depuis deux mois autour de l'Iran, parce que l'Iran a balancé quelques drones sur des installations dans les pays arabes, de la péninsule arabique, imaginez qu'il y ait un pays comme la Russie, deux fois plus gros que l'Iran, qui est tout plein de misquilus, en plus c'est nucléaire, donc c'est moins facile d'aller lui taper dessus. Les Ukrainiens ont montré que c'était tout à fait faisable de balancer des missiles dans la profondeur, mais enfin, les pays européens ont déjà plus de mal avec ça, avec ce réflexe. Hésiterait sans doute à le faire et en plus serait assez rapidement en panique sans doute si on commençait à se prendre des flots comme ça de drones. Donc ça aurait un effet psychologique extrêmement important, suffisamment pour que les Russes puissent décider de faire ça d'ailleurs. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Vous avez pareil des analystes comme Mersheimer aux États-Unis que vous devez connaître, que je ne tiens pas en très très haute estime, parce que je pense qu'il raconte pas mal de conneries, notamment en expliquant que la guerre est la faute de l'Occident, lui, qu'en gros, voilà. Je rappelle qu'il explique qu'on a été très méchants avec les Russes, et que donc ils étaient quelque part obligés d'attaquer l'Ukraine. Alors que je rappelle que une des grandes préoccupations de l'Ukraine, c'était de la Russie, affirmée par Vladimir Poutine, c'était l'idée qu'il puisse y avoir des missiles qui puissent frapper Moscou à Kharkiv. Hein. Et donc ça, c'était une grande catastrophe pour Poutine, et c'est pour ça qu'il fallait envahir l'Ukraine en gros, alors que si vous regardez, les Occidentaux, l'OTAN n'a jamais osé mettre de missiles, même pendant les trois premières années de la guerre à Kharkiv. Par contre, l'Ukraine a fini par développer ses propres missiles et les balancer sur Moscou. Donc là aussi, calcul assez raté. Donc toute cette idée que c'est la faute des Occidentaux est totalement absurde. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, un type comme Mersheimer aussi commence à dire que la confrontation directe est plausible. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'est par historionomie, si vous voulez, que je vous ai dit ça, parce que ce que j'ai dit depuis le début de la guerre en Ukraine, quand on me posait la question quand est-ce que la Russie attaquera les Pays-Baltes, j'ai toujours dit que ça serait dans les 6 mois d'une forme de règlement qu'il y aurait en Ukraine. C'est-à-dire, en tout cas, ça peut être une paix qui est négociée d'une manière ou d'une autre, ou ça peut être aussi une situation de blocage constatée. Et à mon avis, la situation de blocage constatée, ça a été le cas entre le sommet d'Anchorage au mois d'août et la négociation ratée de novembre. C'est difficile de savoir exactement à quel moment les Russes auront décidé de croire que il n'y aurait pas de paix possible, en tout cas qu'ils n'obtiendraient pas de pression de Donald Trump sur l'Ukraine pour forcer l'Ukraine à céder. Donc voilà, on est vraisemblablement allé dans quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que quand j'ai commencé à vous dire ça, moi, au mois de septembre, pour l'instant, on en parlait très peu, et vous constaterez en fait que depuis ces derniers mois, on en parle de plus en plus. C'est de plus en plus avancé. Et maintenant, vous avez de plus en plus aussi Volodymyr Zelensky qui dit que le renseignement ukrainien a des indices qui vont dans ce sens, en tout cas. Donc l'inquiétude est réelle. Donc voilà où est-ce qu'on en est au niveau de la situation stratégique mondiale. C'est-à-dire que les choses semblent encore relativement calmes, on va dire, autour de Taïwan. On a ce secteur-là où la guerre est en cours et déjà bien avancée. Et on a le risque que ça éclate ici, sachant que si ça éclate ici, ça risque aussi de finir par éclater là, à Taïwan. Si je dis si ça éclate ici, c'est dans les pays baltes, hein, pour ceux qui ne regardent pas leur écran, autour de Taïwan, parce que à ce moment-là, il y aurait un intérêt chinois à se dire bon, faut profiter du fait que plus personne ne viendra nous chercher, en tout cas qu'on a le maximum d'alliés dans la guerre, et donc il faut profiter de la confrontation globale. Je voulais terminer ce point, parce que ça c'est sur les actualités, donc c'est les données actuelles. Sur la Russie, je reviens pas, impérialiste revanchard, donc on peut penser qu'il va aller chercher l'escalade forcément, comme n'importe quel impérialiste revanchard, mais en particulier je renvoie au cas du Japon, et c'est dans quelle émission dernièrement que j'avais parlé de... que j'avais fait le parallèle en particulier avec avec le Kido Butai, je sais plus, c'était dans une émission assez longue que j'avais fait, je sais plus laquelle c'était, faudra que je la recherche si quelqu'un s'en souvient dans le chat. Je pense que c'était Iran, la guerre mondiale a-t-elle commencé, à mon avis c'était l'émission du 3 avril, donc je reviens pas là-dessus, mais sur le déploiement de l'arme de drone, parce qu'en fait les Russes sont en train de former des dizaines de milliers de dronistes. Je crois qu'ils en ont 30 ou 40 000 déjà, et ils veulent en avoir 160 000 à la fin de l'année pour contrôler des drones. Et voilà, je trouve ça intéressant, notamment parce que comme ils ont mis des déploiements avancés de bases de drones en Biélorussie, ça donne l'impression qu'il y a envie de viser derrière l'Ukraine, quoi. Quand même, cette idée-là paraît assez sûre, et pour le coup, il y a une avance. Et je rappelle notamment l'exercice Edge Dog, mais il y en a eu d'autres, sur l'île de Gotland notamment, où à chaque fois, des exercices OTAN Ukraine qui ont montré que quelques dronistes ukrainiens arrivaient à mettre la pâtée à des troupes otaniennes, parce que malgré l'effort de Rotex, etc., il n'y a pas l'expérience de la guerre, et du coup ça manque beaucoup. Et le problème, c'est que les Russes, même s'ils sont moins doués que les Ukrainiens visiblement jusqu'ici, puisqu'avec normalement plus de moyens, ils s'en sortent moins bien, ils ont quand même aussi vraisemblablement un hiatus de compétences par rapport à l'OTAN sur ce côté de l'arme des drones, bien sûr. Pas un certain nombre d'autres secteurs de l'arme, mais ça oui. Alors, je voulais juste reparler d'un truc, c'était l'occasion de revenir sur une notion qui justement sera détaillée, parce que vous savez qu'il y a le premier numéro de la revue d'histoire théorique, notre revue académique historionomique qui va sortir à la fin du mois, là. Et dont on parlera au congrès d'ailleurs aussi, ce sera l'occasion de lancer la revue, et à cette occasion là j'ai de nouveaux concepts. Alors je ferai peut-être une émission prochainement, mais je laisse la primeur au congrès là-dessus, sur l'idée de l'homogénéisation culturelle comme mécanisme historionomique fondamental, si vous voulez. Mais je voudrais juste profiter de ça pour dire que ça permet d'éclairer les fameux cas, vous savez, dont je parle, de reboot d'ancien régime après une phase révolutionnaire, le fait qu'on se retrouve avec des pays qui sont ce que j'appelais des nouveaux anciens régimes, que ce soit ce que n'est pas la Russie de Poutine, puisque la Russie de Poutine, c'est de l'impérialisme revanchard, mais en Iran et en Chine, on a des nouveaux anciens régimes, c'est-à-dire des régimes qui doivent finir par déboucher sur une révolution nationale. Et alors, qu'est-ce qui a permis, alors je vous le fais court, hein, mais qu'est-ce qui a permis de comprendre la théorie de l'homogénéisation, en fait, c'est que toutes les étapes successives du parcours de construction nationale classique, en réalité, sont juste des phénomènes émergents de l'homogénéisation. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrivé à tel degré d'homogénéisation, vous avez telle transformation des modes de pouvoir qui se fait, en fait, pour le faire très court. Hein. Et donc, la révolution nationale qui arrive, finale, celle qui fait la mutation parlementaire, elle arrive au moment où vous avez atteint un certain degré d'homogénéité suffisant. La question qui se pose étant naturellement, comment est-ce qu'il peut y avoir des retours à l'ancien régime, donc à une fin de phase absolutiste, pour des pays qui normalement sont devenus suffisamment homogènes. Et alors ça, on le comprend justement en regardant un certain nombre de cas et en voyant que vous avez tout un tas de pays qui, en fait, juste au moment où ils font leur révolution nationale, le font en se débarrassant, en se débarrassant pas forcément volontairement, ça peut être un effet involontaire de l'histoire et souvent d'une guerre perdue, se débarrassent d'une partie de leur territoire qui était probablement la partie la moins homogène, justement. Alors si vous prenez le cas par exemple de l'Allemagne en 1914, vous avez l'Empire allemand, très bien. Qui s'est constitué en 1870, donc c'est pas très vieux, en rassemblant toute une tas de territoires qui n'étaient pas forcément homogènes ensemble, parce que par exemple tous les Allemands parlaient allemand justement, mais vous aviez des entités locales par exemple qui avaient une certaine identité, justement. Donc, par exemple, la Bavière, hein, mais c'était le cas aussi de l'Alsace-Moselle, hein, en France. Et donc vous vous retrouvez en 1914 avec une Allemagne qui est grande comme ça. Et la Révolution nationale, qui va commencer en 1918, elle se passe, je suis toujours sur l'excellent site Géacron, hein, pour voir les cartes année par année, c'est super, je vous encourage d'y aller, si vous adorez les cartes comme moi. Et donc ce qui s'est passé, c'est par le traité de Versailles notamment que ça s'est fait. D'abord, elle a perdu l'Alsace-Moselle qui a été repris par la France. Et ensuite, elle a perdu un certain nombre de territoires qui étaient les territoires où il y avait justement le plus de mixité, on va dire, ethnique. C'est-à-dire là où c'était moitié allemand, on va dire, moitié autre chose. Donc les Sudètes, etc., qui avant étaient dans l'Empire austro-hongrois. Donc vous retrouvez avec un pays qui fait sa révolution nationale en même temps au moment où il est replié sur quelque chose de plus homogène, la partie la plus homogène du territoire. Elle perd une partie des territoires les plus hétérogènes, et donc par définition, ce qui reste est plus homogène. Bon. Et ça accélère, si vous voulez, le mouvement de révolution nationale. Et vous pouvez voir aussi la même chose avec la Russie de 1917. Hein, la Russie de 1917, on va la regarder là. Alors, on va faire la Russie de 1916, ou même de 1914, pour que vous la voyez sans être occupé par les Allemands. Voilà, donc l'Empire russe était énorme, on est d'accord. Et cet Empire russe, donc, on va faire directement 10 ans plus tard. Il est. On va faire moins de 10 ans plus tard, parce que non, comme ça, il perdra le. Voilà, comme ça, c'est sans l'Ukraine, parce que l'Ukraine, il l'a repris après. Mais a perdu toute une partie de ses territoires, qui là aussi étaient les plus hétérogènes, puisque vous aviez une partie de la population des Baltes, justement, c'était des Baltes, voire des Allemands de la Baltique. En Ukraine, vous aviez aussi d'autres gens. En Pologne, vous aviez Polonais, donc tout ça, c'était pas des Russes. Donc c'est assez classique que la chose se passe comme ça. Et vous avez aussi le cas, alors je crains que ça ne se voit pas sur la carte de Géacron, de la Chine, qui est entrée en révolution nationale en 1911, et qui a perdu le contrôle de la Mongolie. Mais alors ça ne se voit pas sur Géacron, c'est dommage parce qu'il reste sur l'idée locale. Mais en fait, grosso modo, la Chine, elle a aussi perdu tout ça, là. Tout ça. Cette moitié-là, si vous voulez, ou ce tiers-là, parce que là, c'est le Xinjiang, et surtout le Tibet, qui avait été perdu aussi, qui était des endroits qui n'étaient pas peuplés de Han, contrairement au reste de la Chine. Et dont le contrôle, donc, a été perdu, en fait, pendant ces années-là. Et qui a été récupéré plus tard. Et alors, c'est ça qui est important. Pourquoi ? Parce que, à la fin... que ce soit pour l'Union soviétique d'ailleurs ou pour la Chine, il y a eu ce fameux, je vous dis, ce reboot d'ancien régime, ce retour à l'ancien régime, alors que les pays étaient en révolution. Pourquoi ça a eu lieu ? Ben parce que l'un comme l'autre ont été, dans le cadre de la révolution nationale, sujets à un impérialisme revanchard. Une pulsion impérialiste revancharde, qui commence dès la reconquête de l'Ukraine par l'armée rouge et la tentative de conquête de la Pologne en 1921-1922, mais qui se poursuivra ensuite par le pacte germano-soviétique, justement l'annexe de la moitié de la Pologne, des États baltes, etc. Et naturellement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez l'URSS qui, à la fois, avait, elle avait réavancé, hein, si vous regardez, vous voyez, là c'était en 1920 et là c'est en 1950. Donc on est revenu à la fois pratiquement à ce qu'on était en 1914, mais en plus, via le pacte de Varsovie, vous avez un empire soviétique en fait qui avançait encore plus loin que l'empire russe jadiste. Donc ça refait quelque chose de plus hétérogène qu'à la base, en fait, hein, puisque vous récupérez des territoires sous contrôle qui sont hétérogènes, qui ne sont pas aussi homogènes que le centre. Et pareil pour la Chine. La Chine, donc, à partir de... avec une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, voit la victoire de Mao Tse-tung, qui est un peu aussi un impérialiste revanchard chinois, et qui va reprendre un certain nombre de territoires, puisqu'il va reprendre le Tibet, il va reprendre l'Aksai Chine qui est ici, là, cette petite bosse là que vous voyez, ça va être repris pendant la guerre de 1962 contre les Indiens, d'ailleurs c'est toujours contesté, mais vous voyez, c'est passé en territoire chinois. Et donc, dans les deux cas, ce qui s'est passé, c'est que vous avez un impérialiste revanchard qui a, en fait, gagné d'une certaine manière. Un impérialiste revanchard, qu'est-ce qu'il cherche à faire, justement ? Ben, il cherche à reprendre l'empire qui a été perdu pendant la Révolution. C'est ça qui caractérise l'impérialiste revanchard. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Bon. Sauf que reprendre l'empire qui a été perdu, ça veut aussi dire récupérer l'hétérogénéité dont on s'est débarrassé. Et donc, si vous récupérez l'hétérogénéité dont vous êtes débarrassé, ça vous ramène à un niveau d'hétérogénéité qui est en deçà de celui qui est nécessaire pour faire un basculement parlementaire. Et donc, le basculement parlementaire, il ne se fait pas, et vous vous retrouvez dans un régime de pouvoir absolutiste, en fait, impérial, puisque c'est celui qui correspond à votre degré d'avancement d'hétérogénéité. C'est ce qu'on appelle un domina dans le vocable historionomique désormais, parce que c'est par assimilation à ce qui a été le dernier stade de l'Empire romain, après l'anarchie militaire, puisque l'anarchie militaire au IIIe siècle, c'était... Tenez, on va aller voir l'Empire romain pour vous expliquer ça. En fait, ce qui s'est passé dans l'Empire romain, c'est que la phase absolutiste de l'Empire romain, elle commence justement avec l'Empire romain, c'est-à-dire avec Jules César et avec Auguste, puisque le régime impérial, c'est le régime absolutiste romain. Et ce qui se passe au IIe siècle, c'est que vous avez, en fait, ce qui aurait dû être la révolution nationale romaine. C'est-à-dire que, comme vous avez eu beaucoup d'homogénéisation, vous avez eu l'extension, vous connaissez l'histoire, l'extension de la citoyenneté à la totalité des citoyens libres de l'Empire par Caracalla en 212, qui en fait signifie qu'un certain stade d'homogénéisation culturelle avait été atteint, n'est-ce pas ? Et donc à partir de ce moment-là, vous avez le déclenchement d'une révolution nationale. Et ça s'est manifesté comment ? Eh bien, naturellement, l'Empire romain a perdu. J'essaie de vous le trouver. Voilà, a perdu pendant cette période, ce pic, on va dire, de révolution. Il a perdu ses parties les plus hétérogènes. Et ces parties les plus hétérogènes, elles étaient ici. Vous voyez ? Donc au pire du pire de la, ça devait être par là. Je ne sais pas si c'est, voilà, ça, on va dire c'est ça. Ça doit être le pire moment là, parce que c'est entre, vous voyez, c'est entre ces années-là. Vous avez l'Empire des Gaules qui se récupère, l'Empire qui arrive à récupérer une partie de l'Empire des Gaules, mais l'Empire de Palmyre qui s'étend de l'autre côté. Donc on va dire dans ces deux années-là, entre 269 et 270, vous avez la perte de tout ce côté-là, toutes les Gaules, d'accord ? Et de tout le côté Levant et Égypte, d'accord ? Et c'est-à-dire en fait ce qui correspondait aux parties les plus hétérogènes de l'Empire, puisque c'était les plus récentes en fait. Parce que si vous allez voir... On va reculer de 400 ans. L'Empire romain, c'est d'abord ça. C'est d'abord un empire gréco-romain et tunisien, en fait. L'Espagne avait été prise aussi au passage parce qu'elle appartenait au Barca, aux Carthaginois. Mais c'était pas la priorité, en fait. Si vous regardez, le cœur de l'Empire romain, c'était tout cet espace-là. Cet espace entre la Grèce, l'Illyrie, l'Italie romaine, la Corse, la Sardaigne et donc le Carthage. Donc un ancien espace qui était, on va dire, le plus homogène. Et donc si vous regardez, si vous faites un bond pendant ce qu'on peut appeler la révolution nationale, donc, vous voyez que ce qui reste le plus solide, c'est ça, un peu plus étendue en direction de l'Anatolie, qui était aussi de l'espace grec, hein, et aussi l'Afrique du Nord, qui a tenu. Mais donc ça a tenu. Alors pourquoi c'est important? Oui, parce qu'en plus, il y a une partie de l'Anatolie qui a été perdue. Donc vous voyez, on était quand même très proche de ce qui était le noyau de base. Hein. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que vraisemblablement, ceux qui auraient été assez homogènes et uniformes pour former un État-nation avec un parlementaire, ça aurait pu arriver, en tout cas quelque chose de plus approchant à cette époque-là. Ça aurait pas été exactement comme les États-nations modernes, je vais pas entrer en détail, mais ça aurait déjà été quelque chose d'assez homogène comme ça. C'est si Rome, justement, si les empires romains n'avaient pas réussi à récupérer l'Empire des Gaules et Palmyre. Parce qu'à ce moment-là, ça aurait été assez homogène pour continuer à évoluer dans le sens normal. Donc on aurait eu l'équivalent d'une glorieuse révolution, la fermeture du cycle et une espèce de régime parlementaire qui se serait apparu. Parlementaire, on va dire, de type pas tout de suite démocratie. Hein, parlementaire comme était parlementaire l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle. Hein. Mais ça aurait déjà été quelque chose. Bon. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu les impérialistes revanchards romains, qui sont Aurélien, puis Aurélien étant mort prématurément, Dioclétien, qui reprend la totalité du territoire. Et donc, on retourne, et c'est ce qu'on appelle le domina, puisque la première partie de l'histoire de l'Empire romain, c'est le principat. Ensuite, c'est le domina. Pourquoi? Parce que l'empereur romain se faisait appeler, à ce moment-là, maître et seigneur, seigneur et dieu même, dominus et deus. Et donc, dominus, le domina, tout simplement. C'est de là que ça vient. Donc, ce régime tardif. Et donc, pourquoi, historiquement, on récupère ça? Parce que c'est un peu le cas zéro du domina, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un reboot d'ancien régime, en fait, la fin de l'Empire romain. Parce que la mutation se fait pas. Voilà, ça c'était pour vous expliquer le terme, c'était peut-être un peu long pour dire ça, mais bon, on est là pour faire de l'histoire aussi, zut. On a le droit de s'amuser un petit peu. Donc on revient sur notre URSS et notre Chine. Donc l'un et l'autre, ce qui les a caractérisés, c'est que donc ils ont un impérialiste revanchard qui a réussi à reprendre le territoire à la faveur de la Seconde Guerre mondiale et à le garder. Et donc il est redevenu aussi hétérogène qu'il était au début de la Révolution nationale, et donc à partir de ce moment-là, ben, on est retourné en ancien régime. Et il faut à nouveau des décennies pour que cet ancien régime vieillisse et qu'il y ait une nouvelle révolution nationale. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors bon, la Chine, c'est pas encore le cas, mais c'est arrivé en Russie. Et si vous vous souvenez bien, comment ça se passe? J'ai déjà insisté maintes fois là-dessus. Comment ça se passe l'effondrement de l'Union soviétique? C'est, vous avez la Fédération de Russie qui déclare qu'elle sort, qu'elle quitte l'URSS. Vous avez d'autres pays qui avaient déjà quitté l'URSS, hein, des pays baltes, le Kazakhstan, mais quand la Russie décide de sortir, forcément c'est fini, puisque c'était un empire russe. Et pourquoi elle a fait ça? Parce que la Russie estimait que c'était elle qui payait pour la totalité de l'Union soviétique. Et donc vous avez un repli. Tac. Hein, vous voyez, tout ça saute. Un repli sur la partie la plus homogène de la Russie, qui est essentiellement la Russie européenne, et ensuite les parties qui sont très peu peuplées, ou essentiellement peuplées de Russes, parce que même si la Russie est immense et que là-bas il y a beaucoup de Yakoutes, etc., il faut se rendre compte que même dans ces régions-là, la majorité de la population, qui est surtout concentrée dans le sud essentiellement, reste la population russe, hein, qui avait colonisé toute cette partie-là, là, vous voyez, qui est un petit peu au sud, c'est-à-dire ce qui est le plus vivable, là, pas vraiment dans la Sibérie profonde, mais par là, oui. Donc ça reste de la population véritablement russe, et c'est pour ça que ça s'est pas détaché du truc. Donc, quand vous avez un domina, ce qui était le cas de l'URSS, ça n'empêche pas qu'à la fin, ça se termine à nouveau par une révolution nationale, tout pareil, et donc avec une perte de territoire, etc., tout pareil. Bien. Et ce qui caractérise à la fois l'Iran et la Chine, l'Iran après sa révolution nationale de 1979, et la Chine après sa première révolution nationale de 1911, mais qui a traîné en longueur pendant 40 ans, parce qu'il y avait les Japonais qui ont attaqué en même temps. Eh bien, dans ces deux cas, nous avons eu la constitution d'espaces qui sont encore trop hétérogènes pour pour le régime que c'est, pour faire une révolution nationale, et donc ça a reculé. Donc la Chine, elle a reconquis le Tibet et tout, elle a carrément tout réannexé. Pour l'Iran, c'est un petit peu plus subtil à mon avis, mais ça s'est joué avec la projection de l'Empire en direction de la Syrie, du Liban et de l'Irak, hein, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans les dernières émissions où j'ai expliqué ça en détail, sur le côté constitution d'un empire iranien pendant le premier quart du XXIe siècle. Qui forcément a réhétérogénéisé le truc, et d'ailleurs typiquement, la répression qui a eu lieu au mois de janvier est une répression de régime encore trop hétérogène, puisque un régime hétérogène peut aller chercher des populations d'une partie de l'Empire qui est éloignée et qui n'a pas la même conscience nationale que le cœur de l'Empire, et utiliser ces populations pour réprimer la population dans l'Empire. C'est comme ça que l'Iran est allé chercher des milices en Irak, mais aussi en Afghanistan d'ailleurs, pour aller réprimer sa propre population. Pourquoi ? Parce que, et ça, il faut vraiment être dans une phase impériale, et ça vous explique pourquoi c'est l'homogénéisation aussi qui favorise la révolution nationale, parce que typiquement, les débuts de révolution nationale, ça commence souvent avec l'armée qui va pactiser avec le peuple en refusant de le réprimer. Hein ? Précisément parce que l'homogénéisation est telle que l'armée se sent comme justement les frères de la population. Et donc vous n'allez pas tirer sur vos frères. Si le pouvoir peut toujours vous opposer des régiments étrangers en grand nombre, forcément il est plus puissant. Et donc c'est là que vous comprenez que l'hétérogénéité permet aussi un pouvoir plus autoritaire. Et donc voilà pourquoi en Iran comme en Chine on a des dominas. Et que la perte du territoire impérial doit être concomitante avec le début de la Révolution nationale. Alors, vous avez, à mon avis, la Révolution nationale a commencé en Iran, en partie en tout cas, avec les soulèvements de janvier, mais ça va se répandre. Soulèvements de janvier qui ont fait suite à, en fait, la perte d'une partie de l'Empire déjà, en Syrie, pour l'essentiel. Un petit peu au Hezbollah qui est affaibli, et en partie en Irak aussi, qui finira par s'éloigner, puisqu'il rentre de plus en plus dans l'orbite turque plutôt qu'iranienne. Mais c'est pas encore suffisamment avancé pour que le régime tombe. Et en Chine, lorsque la révolution nationale commencera en Chine, parce qu'il y en aura une, comme il y en a eu une en URSS, ça entraînera à mon avis aussi un démembrement partiel du territoire, peut-être avec la reperte du Tibet, ou un truc comme ça. Il y a des petits doutes peut-être, parce que les Chinois ont quand même fait en sorte de coloniser très fortement pour siniser les parties les plus éloignées, notamment en faisant en sorte qu'il y ait une population Han très forte, parce que les Chinois ont compris que c'était ça qui était important. Mais bon, les Russes avaient toujours fait des efforts de russification aussi, notamment en direction de la Pologne et tout, et ça n'a jamais suffi. Donc c'est pas dit que ça suffira. Mais c'est la raison pour laquelle, pour les gens qui comprennent pas pourquoi, je dis que la Chine finira démembrée, comme à mon avis d'ailleurs la Russie, en partie, pour les parties les plus éloignées en tout cas, et je vous en ai reparlé quand je vous ai parlé de l'Empire Panturc il y a 15 jours ou 3 semaines, et bien parce que c'est ce qui se passe assez typiquement. Alors pour la Chine, à la fin au cours d'une révolution nationale, et pour la Russie à la fin d'un impérialiste revanchard, parce que je vais reprendre mon cas allemand encore une fois, je rappelle 1914, vous avez Révolution nationale allemande en 1918, perte donc du territoire le plus hétérogène. Avec l'impérialisme revanchard, vous avez la tentative de tout reprendre. Alors ça va pas aussi loin aussi vite. Mais enfin, d'abord, vous avez l'idée de refaire un truc maximaliste, d'accord. Si l'Allemagne avait juste gagné la guerre là, ou même là, vous voyez, ou là, eh bien, ça aurait fait pareil, ça aurait duré longtemps, on aurait eu un nouvel ancien régime nazi qui se serait plus ou moins bourgeoisé, comme l'a fait le communisme sous Brejnev, etc. Et ça aurait fini par s'effondrer avec une nouvelle révolution nationale allemande. Bon, c'est pas arrivé parce que l'impérialisme revanchard allemand, il a subi le sort normal de l'impérialisme revanchard, c'est-à-dire que tous ses voisins lui sont tombés sur le coin de la gueule et l'ont finalement totalement démembré. Et l'ont ramené à des frontières qui sont encore plus étroites et donc encore plus homogènes que ce n'était le cas à la base. Voilà. Et donc à partir de là, il a une identité qui est beaucoup plus figée et qui ne bouge plus, n'est-ce pas ? Avec beaucoup de populations en plus qui ont été homogénéisées parce qu'on est allé chercher populations allemandes à l'étranger qu'on a fait venir en Allemagne de l'Ouest, ou qui y sont allées elles-mêmes parce qu'elles avaient peur de la persécution. Donc à mon avis, il va se passer un truc comme ça aussi pour la Chine, et pour l'Iran aussi probablement. Même si le territoire iranien lui-même se démembrait, je suis pas sûr, mais à mon avis, ça se voit avec la perte de son empire, on va dire, extérieur. Donc la Russie, elle sera démembrée parce que ça sera comme un impérialiste revanchard qui perd la guerre, et donc qu'on cherche à faire éclater, en plein de petits morceaux pour plus qu'il soit dangereux. Et la Chine, ça sera vraisemblablement à cause de son mouvement national intérieur, que ça se passera. Voilà. Mais dans les deux cas, à mon avis, je disais d'ici 10 ans, en 2022, quand la guerre a commencé en Ukraine, donc là je dirais d'ici 7 ans, quoi. Hein. Partez du principe que ça sera autour de 2032. Hein. Un ou deux ans près, on n'est pas des bêtes, mais enfin, voilà vers quoi on va à terme, de toute façon. Et c'est pour ça que, entre guillemets, je ne m'inquiète pas pour la domination américaine, parce que les Américains, eux, ils sont en pleine expansion, qui va continuer. Alors, à savoir, encore une fois, il y a une contingence dans le fait de réussir tout de suite. Est-ce que Donald Trump, lui-même, et sous son règne, on va dire, va réussir à prendre le Groenland? Est-ce qu'il va réussir à prendre le Canada? Ça fait court, quand même, le temps qui lui reste. Le temps qui lui reste, ça peut être plus long que 2 ans si jamais il arrive, j'en sais rien, si la guerre éclate effectivement et qu'à l'occasion de la guerre il arrive à doubler la présidence américaine de son idée de conseil de la paix et donc devenir une espèce de super monarque américain qui règne au-dessus du président des États-Unis qui lui succédera et qui sera en fait son subordonné, un peu comme les consuls ont survécu à l'avènement de l'Empire à Rome mais étaient les subordonnés de l'Empereur, ils n'étaient plus l'autorité suprême à l'intérieur de Rome. Peut-être aussi qu'il y aura une guerre avec l'Europe pour le Groenland et le Canada, hein, parce que comme j'ai fait une, je vais pas le refaire en détail, hein, mais j'ai fait une, je renvoie au flash que j'ai fait il y a 15 jours sur l'idée du Canada éventuellement dans l'Union européenne, en disant qu'en fait l'espace occidental, c'est-à-dire Amérique du Nord, Europe, c'est, si vous prenez ça, vous comparez ça à ce qu'était la Confédération germanique au début du XIXe siècle. À l'intérieur, vous aviez deux pôles de puissance. Vous aviez vous aviez l'Empire Habsbourg, donc l'Autriche, et vous aviez la Prusse, d'accord. Et pendant le XIXe siècle, en fait, ils se sont tirés la bourre pour savoir qui c'est qui allait faire l'Allemagne et dominer l'espace germanique. Et finalement, c'est la Prusse qui a fait la solution petite allemande de Bismarck, que vous connaissez, c'est-à-dire l'Empire allemand. Mais en réalité, c'est resté un bloc, et ça l'est resté dans le cadre de la duplice, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et bien, mon idée, à moi actuellement, c'est qu'on est en train de voir le même genre d'évolution à l'intérieur de l'Occident. C'est-à-dire que vous avez l'Europe qui veut être un pôle de puissance, les États-Unis qui veut être l'autre. Et vous avez l'antagonisme qui est en train de se construire de plus en plus fortement. Et donc il est question de savoir qui, notamment, dominera le Groenland, qui appartiendra le Groenland, le Canada. Et vous avez la solution européenne, on va dire, qui est la solution qui est en train de s'annoncer. Vous voyez de plus en plus de choses sur les réseaux sociaux là-dessus, qui serait en gros une super Union européenne, c'est-à-dire l'Union européenne plus le Groenland et le Canada. Et vous aurez la solution américaine, qui est la solution qui a été mentionnée par Pete Hegseth, qui est la Greater North America. C'est-à-dire, c'est les États-Unis, c'est la solution petite allemande, en fait, le petit Occident, si vous voulez, c'est-à-dire l'Amérique du Nord contrôlée par les États-Unis et détachée de l'Europe. Bon, moi je pense que c'est l'Amérique du Nord qui va gagner, et que donc elle réussira son pari de toute façon de s'emparer de ce côté-là, et que l'Europe sera le partenaire mineur, comme l'Autriche-Hongrie était le partenaire mineur de l'Empire allemand, mais que c'est malgré tout ce bloc occidental qui dominera le monde au XXIe siècle. Voilà. Et vous comprenez bien que la rencontre Trump-Xi Jinping n'aura pas changé grand chose sur ce jeu sur le temps long, on va dire, de la situation mondiale. Bien, me revoici. On va regarder s'il y a quelques questions avant de passer à autre chose. Avant d'aller voir les questions, je vous rappelle que vous êtes 4-5 000 à regarder la totalité des lives du début à la fin. Hein, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont là au début jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, c'est cette quantité de personnes. Et qu'il n'y a qu'une une petite minorité de ces gens-là qui nous soutiennent. Si la totalité de ces gens-là m'offrait un café par mois, je pense que je serais tranquille, j'aurais plus qu'à m'occuper de la chaîne. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, mais vous pouvez changer ça. Donc n'hésitez pas à me soutenir des diverses manières que vous connaissez, qui sont en description, et notamment avec le bouton « Rejoindre » en dessous de cette chaîne. En plus, ça vous donnera accès à des contenus supplémentaires que vous connaissez, le bulletin 4 fois par mois et bien sûr live privé et le super live privé. Alors qu'est-ce qu'on a comme zut, j'ai réussi à faire disparaître le chat. Ah, flûte, zut, j'essaie de le réafficher comme ça. J'en profite aussi pour vous redire de pousser, surtout parce que je ne sais pas combien on a de pouces. J'ai perdu le truc. Ah, j'entends des petites sonneries dans ma tête. Est-ce que l'ami Iruma est finalement de retour pour m'envoyer des trucs? Je vois qu'il a envoyé des messages. Oh là là. Oh là là là, il est là. Merci à Rémi Poix qui nous a rejoint comme maître historionome. Merci, je vais saluer les autres membres avant de faire autre chose d'ailleurs, justement, pour remercier tous les gens qui ont sauté le pas pour nous soutenir. Nous avons, parce qu'il y a eu quand même des gens qui se sont rajoutés cette semaine, qui nous ont rejoints. Il y a eu Miss Tinguette qui nous a rejoints, merci beaucoup. Merci aussi à MS53727, Damien Graciano, ça c'est un réabonnement, Isaac Bagère, Anthrop76, merci de nous avoir rejoints et merci à tous ceux qui se sont réabonnés, Luc38, Anastasis, Charles Julien, Ougoul, Sergent et Adam Zmatula aussi, que je salue, que j'ai vu au congrès l'année dernière, je sais pas s'il sera là cette année. The Parm et Enzo Miller, merci beaucoup d'être tous là. Alors, que m'a envoyé l'ami Irma? Question de Matt Broshiker, merci pour le don. Bonsoir, vous déconseilleriez donc d'aller en Allemagne cet été pour visiter la Bavière ou la vallée du Rhin? Non, la Bavière ou la vallée du Rhin, non. Mais en plus, encore une fois, c'est difficile de savoir si cet été ça aura démarré. On voyait une fourchette autour du mois de mai-juin. On entend de plus en plus d'échos qui pointent dans ce sens-là, donc c'est pas impossible. Voilà. À mon avis, la Bavière, ça fait déjà un petit peu loin. Je sais pas jusqu'où taperaient les Russes s'ils essayaient de taper vraiment. Je renvoie à l'émission que j'avais fait en essayant d'imaginer ça sur la carte. Mais enfin non, je vous déconseillerais pas, vos voyages sont... prévoyez vos voyages et puis vous verrez bien, mais je suis pas sûr que ce soit plus dangereux en Bavière qu'ailleurs. Fistule, bonsoir, ça faisait longtemps, et oui, bisous à tous, pensez à prendre vos places pour le congrès et à dans un mois les compagnons, et oui, ça fera très plaisir de vous voir. Carciofo17, les empires de Palmyre, des Gaules et le reliquat de l'Empire romain aurait pu être trois états matures qui coexistent si Dioclétien avait échoué. Alors non, je pense pas. Je pense pas que ni les empires de l'empire de Palmyre ni l'empire des Gaules étaient suffisamment homogènes chacun de leur côté. Peut-être l'empire de Palmyre, qui était plus anciennement civilisé, etc., qui avait quand même déjà, qui s'était beaucoup unifié sous l'empire hellénistique. L'empire des Gaules, ça me paraît plus compliqué quand même. Mathis, merci pour le don. Que vous inspire la gauche qui crache de manière quasi unanime sur le film L'Abandon? Alors, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ce que ça m'inspire en revanche, c'est que clairement, ils prennent ça comme une insulte parce que bah, tout simplement, ils n'aiment pas, dès qu'on parle du terrorisme islamique et des problèmes qu'il peut y avoir des frictions justement ethnoculturelles, les problèmes justement d'hétérogénéité à l'intérieur de la société française, la gauche le prend mal et elle est sur la défensive. Et donc forcément, elle crache là-dessus. L'histoire de Samuel Paty, en fait, elle voudrait la gauche que ces choses-là soient oubliées. Et le fait est que ceux qui parlent le plus de ces attentats, qui les commémore le plus fortement, c'est souvent effectivement la droite au sens large, qui veut pas oublier parce qu'elle a aussi politiquement intérêt, en tout cas ça correspond à ses préoccupations politiques, les problématiques illustrées par ces actes, illustrent les problématiques qui la préoccupent alors que ce sont les problématiques que la gauche veut écarter à tout prix. On a une question au choix. La nouvelle hétérogénéité de la France va-t-elle permettre un régime autoritaire? Ben, la nouvelle hétérogénéité de la France favorise le régime autoritaire de la Ve République. Il l'a favorisé avec l'immigration. Je ne suis pas sûr que ça continue à s'accentuer dans ce sens-là, mais ça a favorisé. Mais il faut voir que même si la France n'a pas été aidée dans cette voie-là en raison de sa constitution, précisément, la France a une constitution qui est structurellement autoritaire, donc ça a favorisé encore plus ce pouvoir centralisé. Mais si vous regardez, en fait, vous apercevez que même avec une constitution parlementaire et une culture parlementaire beaucoup plus développée, nos voisins, nos grands voisins, que sont en particulier l'Allemagne et l'Angleterre, mais c'est probablement de plus en plus vrai pour l'Espagne aussi, à travers une très forte immigration, ont eu tendance aussi à développer des caractéristiques d'ancien régime. Ça se voit beaucoup en ce moment avec Keir Starmer en Angleterre, naturellement. On en parlera peut-être dans le super live privé, ou dans le live privé, qui va suivre. Mais vous avez effectivement ce problème de retransformation du régime autoritaire, parce que si vous avez, de toute façon, si vous avez une société qui est structurellement hétérogène, vous pouvez avoir une constitution qui est parlementaire, la réalité du pouvoir correspondra à votre degré d'hétérogénéité, pas à l'aspect de vos institutions. Voilà. Et de toujours, le régime parlementaire sera le régime naturel d'une société très homogène, mais vous n'arriverez jamais à transformer une société hétérogène en régime parlementaire. Vous pourrez lui mettre ces institutions-là, d'une manière ou d'une autre, en réalité, le pouvoir s'exercera de manière autoritaire. Une autre question dans le sujet, qui est la dernière, me dit Hiromissime. Comment vois-tu la fin du conflit à venir? Ça ne sera pas la prise de Berlin ou un déferlement militaire nucléaire, bombe atomique, que le conflit s'arrêterait? Encore une fois, moi, je pense pas qu'il y aura de guerre nucléaire. Je suis même pas sûr qu'il y aura de. Je pense même qu'il n'y aura pas d'utilisation des armes nucléaires. Peut-être à titre signal tactique à un moment sur la fin, mais. Prise de Berlin, non, encore une fois, pour l'Allemagne, moi je parle surtout de vichisation, c'est-à-dire le fait que l'Allemagne serait plutôt poussée à se soumettre d'une manière ou d'une autre aux intérêts russes. Par soumission, économique notamment, et puis aussi parce qu'il y a un tropisme allemand de soumission ou de partenariat avec la Russie. On l'a déjà vu avant sous Merkel, hein, donc c'est l'idée de repartir dans ce sens-là. Donc prise de Berlin, pas forcément. Par contre, comment sortir de la vichisation? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que l'Allemagne ne sortira pas de la vichisation par la révolution nationale chez eux? Comment ça résonnera par l'Union européenne, etc. Je pense que ça ferait le sujet d'une bonne autre émission, on va dire. Enfin, Mati, merci encore pour l'autre don. Que vous inspire ceux qui pensent que tous nos malheurs viennent de la French Theory? Merci. J'ai eu l'occasion d'en parler un peu aujourd'hui sur X. Je pense que c'est une erreur d'attribuer des malheurs à des idées, puisque les malheurs, les idées ne provoquent pas de choses. Les idées sont le résultat de d'intérêts. En tout cas, enfin, vous pouvez avoir des idées qui sont détachées de tout intérêt, etc. Mais ces idées-là n'auront pas d'effet matériel. Précisément parce qu'elles sont détachées d'intérêts matériels. Ça marche dans un sens et pas dans l'autre, si vous voulez. L'intérêt matériel fera que vous aurez certaines idées qui émergeront spontanément. D'accord, mais vous n'aurez pas des idées qui pourront transformer la marche matérielle des choses. Ce sont deux choses imperméables, et surtout la plus fondamentale, c'est les choses elles-mêmes, et qui donnent naissance aux idées, mais qui ne sont pas actionnées par les idées. Et ce que montre l'historonomie notamment, c'est que tout un tas de choses qu'on attribue comme résultat à des idées modernes, en réalité, ça n'est pas le cas, puisque vous retrouverez les mêmes idées, enfin, vous retrouverez plutôt les mêmes choses, les mêmes comportements dans l'Antiquité. Je parle notamment tout ce qui est la place de l'homosexualité, la féminisation, le transgenre, etc. Vous allez lire Juvenal et Marcel, vous voyez la même chose à Rome, hein, encore une fois. C'est pas original, c'est lié à certaines sociétés. Et bien souvent, vous apercevez que la seule chose qui change avec la modernité, c'est le fait que vous avez trouvé des gens qui ont rationalisé tout ça en mettant en place des théories. Mais ces théories, en fait, sont venues habiller des choses préexistantes ou préémergentes, ou qui émergeaient en même temps. Elles sont pas venues créer l'apparition de ces choses-là. Voilà. C'est pas parce que vous avez la French théorie, par exemple, que tout d'un coup, vous êtes retrouvé avec des transgenres. C'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, dire tel penseur a fait énormément de dégâts parce que ceci, cela, en général, vous pouvez vous dire que c'est faux. Vous pouvez vous dire, la réalité fondamentale, c'est que les mêmes choses qui ont provoqué l'apparition de ce penseur-là ont eu telles conséquences négatives. Mais en réalité, le penseur ou l'idéologie est une co-conséquence des choses que vous dénoncez, ce n'est pas leur cause. Voilà comment je le dirais de la manière la plus courte et j'espère simple possible. Bien. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. On est déjà à 1h15, donc je ne me suis pas foutu de vous, je pense. Je vous remercie encore de mettre des pouces. Vous n'étiez pas très très nombreux ce soir, mais je sais que l'actualité est un petit peu en berne. Je suis à peu près sûr qu'il y aura à nouveau beaucoup plus de monde en juin, parce que je ne sais pas pourquoi les deux dernières années, il s'est passé plein de trucs en juin. On verra si c'est pas... Et les mois de mai, à chaque fois, sont un peu en creux. C'est assez curieux de voir des constances là-dessus. Je sais pas à quoi c'est lié. Peut-être que ce ne sera pas le cas et que mon échantillon des deux ans précédents est trop bref. Pour tirer des conclusions, ce sera très intéressant à observer. En tout cas, je remercie à ceux qui ont déjà été là d'avoir été là. N'hésitez pas à mettre des pouces, partager, vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, mettre la cloche si vous êtes déjà abonné, parce qu'il faut augmenter le taux de gens qui clochent. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous soutenir, c'est extrêmement important si on veut continuer à avancer dans le bon sens. Et si vous voulez participer au congrès, ce qui serait, je ne le cache pas, une excellente idée, je rappelle l'adresse, tout ça. De toute façon, bon, je vous le remontre, mais il vous suffit de revenir au début de la vidéo où je l'avais affiché. Magie du différé. Et vous pourrez revoir tout ceci. J'ai vu qu'il y avait un sondage qui avait été fait. Alors, je vais y mettre fin, si je peux le faire. Et votre générique préféré, la Hellmarch 66%, le rap historonomique 20%, et le rock prog, d'accord, 14%. Les gens restent très très fans de la Hellmarch. C'est moins personnalisé la Hellmarch quand même. Le problème étant qu'il faut que je refasse un sondage sur le canal Telegram parce que je pense que les souscripteurs, eux, aiment beaucoup le rap historonomique. Et forcément, les gens qui soutiennent ont une voix qui compte plus. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez vraiment le retour de la Hellmarch. Je vous dis, n'hésitez pas à aller voir les formats flash si vous les avez ratés. À bientôt pour de nouveaux formats. Et surtout, vous laissez pas faire.